Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour, dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je vais revenir sur des chiffres, puisqu'ils viennent de sortir pour 2022, ce qui concerne notre espérance de vie et qui viennent d'être publiés par l'Institut national des statistiques et des études économiques, organisme très officiel. Alors, vous savez sans doute que Macron, dans tous ses discours, argumente de l'augmentation de l'espérance de vie pour justifier le recul de l'âge de la retraite. C'est son argument. On vivrait de plus en plus vieux, paraît-il. Or, précisément en 2022, comme depuis déjà 8 ans maintenant, c'est-à-dire depuis 2014, l'espérance de vie des hommes comme aussi celle des femmes ne progresse plus dans notre pays. Alors d'abord quelques chiffres, puisqu'on n'y coupe pas. Alors pour les femmes, entre 2014, donc 8 ans maintenant, et 2022, alors si on regarde l'espérance de vie qui est calculée depuis la naissance, elle était de 85,4 ans pour les femmes à la naissance en 2014. Elle est passée à 85,2 ans en 2022, c'est-à-dire même un léger recul. Pour les femmes, toujours à compter du calcul de l'espérance de vie à compter de 60 ans, elle était de plus 27,7 ans au-delà de 60, c'est-à-dire 87,7, et elle est passée à 87,5, c'est-à-dire également un léger recul. Alors bien sûr, il faut regarder aussi pour les hommes. En 2014, elle était de 79,2 ans à la naissance, pour être en 2022 à 79,3, c'est-à-dire un dixième de plus, qui est une différence ridicule sur un espace de 8 ans. Pour les hommes à compter de 60 ans, c'est-à-dire après 60 ans, l'espérance de vie était de 23,1 ans, c'est-à-dire 83,1, et elle est restée à 83,1. Donc, on a donc une stagnation, voire même parfois un léger recul, depuis 8 ans, y compris, je vous ai pas breveté de chiffres, mais on le voit en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2021. Donc, on est sur un palier. Alors, si on regarde notre histoire depuis l'après-guerre, donc si on regarde sur des tranches de 4 ans, on prenait en moyenne un an de plus d'espérance de vie, ce qui était considérable, tous les 4 ans. C'était une moyenne, mais c'était à peu près ça depuis les années 50. Donc, premier constat, en moyenne, un an de plus tous les 4 ans depuis l'après-guerre, et là, un palier depuis 8 ans maintenant, et aussi à noter que dans notre histoire depuis l'après-guerre, il n'y a jamais eu un palier sur plusieurs années, qui plus est sur 8 ans, ça n'est jamais arrivé. Alors si je dis ça, c'est bien sûr pour casser un petit peu la figure à toutes les projections qui nous feraient dire qu'il faudrait travailler plus longtemps parce qu'on serait plus longtemps en bonne santé, c'est tout à fait inexact. Alors, je me suis amusé à regarder un peu aussi où on se situait au niveau international. Nous ne sommes pas dans le peloton de tête, en France, pas du tout. On est à peu près au 20e rang au niveau international. Et si on regarde les pays qui sont nettement au-dessus de nous, donc j'ai pris comme référence ceux qui avaient 2 ans de plus d'espérance de vie qu'en France, pour ne pas citer trop de pays, eh bien, ceux qui sont nettement au-dessus de nous, eh bien, c'est l'Australie, plus 2 ans, la Suède, le Japon, la Norvège et l'Islande. J'ai mis de côté les paradis fiscaux puisque c'est un peu faussé, vous vous en doutez. Donc, on n'est pas, la France en tout cas, dans le peloton de tête pour ce qui est de l'espérance de vie. À noter que l'espérance de vie peut progresser, mais elle peut aussi régresser. Il est important de le savoir. Ça s'est passé dans plusieurs pays, notamment la Russie, entre autres, mais pas seulement. Cette espérance de vie peut régresser selon la politique conduite dans le pays. C'est d'abord une question politique. Et quand on regarde aujourd'hui, il est quand même assez étonnant de voir que la Chine aujourd'hui a une espérance de vie qui est supérieure à celle des États-Unis qui ont, eux, régressé. Alors de penser qu'il vaut mieux vivre aujourd'hui en Chine qu'aux États-Unis, ça fait tout drôle dans les oreilles, et pourtant, en tout cas en termes d'espérance de vie. Alors qu'est-ce qui détermine précisément cette espérance de vie? Qu'est-ce qui la constitue quand on raisonne pour toute une population? Eh bien, ce n'est pas tant l'évolution des sciences et techniques, c'est pas le cas, puisque en fait la connaissance scientifique est la même dans tous les pays, ce qui ne veut pas dire que ça se traduit par une espérance de vie comparable, bien au contraire. Donc l'évolution des sciences et techniques est un critère certes, mais un critère secondaire. Le véritable déterminant principal, eh bien, c'est la qualité de vie qui inclut la vie au travail. La bonne santé, elle se détermine aussi et surtout avec le boulot et pas avec les discours sur la vie extra-professionnelle, les fameux 5 fruits et légumes par jour, et j'en passe. L'accès aux soins pour tous est également un critère, et nous avons déjà vu dans cette chronique que notre système de santé est particulièrement malmené. Ceci étant, l'espérance de vie est un critère intéressant, bien sûr, mais il pose quand même quelques problèmes quand on raisonne en termes de retraite. Il faudrait plutôt regarder l'espérance de vie sans incapacité, c'est-à-dire l'espérance de vie en bonne santé. On peut le dire, il y a des statistiques là-dessus. Le problème, c'est que l'INSEE n'a pas produit de nouveaux chiffres dans ce domaine, l'espérance de vie sans incapacité, depuis une dizaine d'années. Donc c'est des chiffres qui sont assez gênants à publier, c'est certainement pour ça qu'ils ne le sont pas. On sait tout de même que l'écart d'espérance de vie sans incapacité entre la population ouvrière et la population des cadres sup et des professions libérales, eh bien, il y a un delta de 11 ans en moyenne. Donc c'est quand même extrêmement considérable, et c'est sans doute pour ça que ces statistiques qui datent un peu n'ont pas été mises à jour récemment. Je crois que vous devinerez aisément pourquoi dans ce débat sur la retraite. À propos du débat sur la retraite, on a quand même des chiffres qui sont produits par le très officiel Conseil d'orientation des retraites qui nous donne un éclairage à sa façon, si l'on peut dire, puisque le Conseil d'orientation des retraites nous dit qu'à l'âge de 62 ans, seulement 20% de la population est en activité à temps plein. Seulement 20% à 62 ans, et principalement pour des raisons de santé. Donc ça donne quand même un éclairage, et ça rend encore plus insupportable cette idée d'avoir une retraite pleine et entière à 64 ans, puisqu'on voit bien que ça va concerner qu'une petite minorité de la population. Voilà donc des explications qui démontrent que l'argument de la progression de l'espérance de vie est mensonger, je le dis, puisque Macron le place dans tous ses discours. Ce n'est de toute façon pas la bonne approche, l'espérance de vie en rapport avec la retraite, mais il faudrait surtout regarder le financement de la retraite avec notamment la répartition de la richesse créée, puisque c'est essentiellement là qu'est le sujet le plus intéressant, puisque je rappellerai que depuis l'après-guerre, on a su faire deux choses. On a su à la fois augmenter l'espérance de vie de façon considérable, de l'ordre d'une quinzaine d'années, et on a su aussi améliorer l'âge de départ à la retraite. Donc le grand sujet, c'est la répartition de la richesse créée. Mais je voulais quand même donner des explications sur le faux argument de l'allongement de l'espérance de vie. Alors ce que je viens de dire, nos dirigeants le savent parfaitement, ce n'est pas de la fatalité, ce n'est pas de l'ignorance, ce sont tout simplement des choix politiques. Voilà ce que je voulais vous dire et à bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier. À retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Cueillus.
Le plus petit de jardin de ma tante.
Oh, c'est pas vrai.
Ah, bien sûr. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.
Oh,